Avoir raison avec Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Cette phrase, vous l'avez peut-être lue ou entendue au lendemain de l'élection de Donald Trump, le 8 novembre 2016. Elle a été écrite par Antonio Gramsci, journaliste militant, né en 1891 et mort en 1937, cofondateur et dirigeant du Parti communiste italien, condamné à 20 ans de prison par le régime fasciste. Nicolas Sarkozy ou Jean-Luc Mélenchon, des États-Unis à la Russie en pointillé depuis les années 70, ils ont tous à la bouche ces concepts. Hégémonie culturelle, guerre de mouvement ou de position, victoire des idées, mécanismes révolutionnaires, mais à gauche ou à droite, à l'est ou à l'ouest, ont-ils bien compris de quoi parlait Gramsci? Qui était-il? Quelle était sa pensée? Et comment faire appel aujourd'hui à sa philosophie de l'action, non pas à tort et à travers, mais à raison? Et pour avoir raison avec lui, Antonio Gramsci.
Je vois luire les quelques autobus du quartier avec des grappes d'ouvriers aux portières et des soldats s'en vont en bande sans se presser. Vers le mont où se nichent parmi de gluants déblais de terrain et des amas d'ordures sèches, blotties dans l'ombre, de petites putains qui attendent, fiévreuses, dans cette crasse aphrodisiaque. Et pas très loin, parmi des maisonnettes proscrites en bordure du mont ou au milieu d'immeubles, pareils à des mondes, des enfants jouent légers comme des haillons sous la brise non plus froide mais printanière, brûlant d'insouciance juvénile, de noirs adolescents sifflent sur le trottoir cette soirée à la romaine du mois de mai dans une fête crépusculaire. Pier Paolo Pasolini, extrait des cendres de Gramsci, 1954.
Bonjour Jean-Yves Frétinier.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire à l'université de Rouen, membre du laboratoire du GRIS, groupe de recherche d'histoire de l'université de Rouen, ancien membre de l'école française de Rome, et l'on vous doit une biographie d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, Vivre, c'est résister, paru aux éditions Armand Collin en 2017. Vous allez, pour cette première partie, nous présenter, nous raconter qui était Antonio Gramsci, porté au nu, on l'a entendu, par Pasolini, travaillé par les universitaires, cité par les hommes politiques. Son nom reste pourtant peu connu. Qui était Antonio Gramsci?
Voilà une question bien difficile, mais c'est vrai que il y a un écart que vous soulignez entre l'instrumentalisation un peu de son nom, de sa pensée, de ses concepts, alors ce qui est aussi un signe de popularité, et finalement le fait que sa vie soit assez peu connue. Et je crois que c'est la première biographie en français, ou du moins écrite par un français, puisqu'il y a une traduction. C'est important justement de replacer Gramsci dans son terreau, qui est principalement un terreau italien, même s'il a vécu en Union soviétique, même s'il a été membre de l'Internationale communiste, même s'il a vécu aussi à Vienne, en Autriche, c'est essentiellement une pensée qui s'est forgée dans le contexte italien. Et même les concepts que vous avez rappelés au début dans votre présentation, tout à fait réussie, sur l'hégémonie, etc., c'est aussi une pensée, des concepts qui sont nés en rapport avec la situation italienne. Donc je crois que c'est important aussi de le replacer et de comprendre sa vie dans ce terreau italien.
Alors comment présente-t-on Antonio Gramsci? On peut dire donc qu'il est italien, comme vous l'avez précisé, il y a ce contexte qui est important. Est-ce qu'on le présente comme un militant, comme un communiste, comme un journaliste, comme un écrivain, comme un intellectuel?
Un peu tout ça. Je dirais d'abord, italien, il est sarde d'abord. C'est quelqu'un qui naît en Sardaigne, et qui, progressivement, je pense que si on pouvait trouver une idée, c'est quelqu'un qui élargit son horizon de vie, la Sardaigne, la nation italienne, et puis finalement l'international, hein, avec la rencontre de Lénine, beaucoup plus importante, selon moi, que la rencontre avec Marx. Alors, ça, c'est déjà une dimension. Mais on pourrait faire le mouvement inverse, hein, puisque sans doute avait-il le désir, c'est une question complexe, de finir sa vie en Sardaigne. Donc comme s'il y avait un chemin un peu à rebrousse-poil, si je puis dire, de l'international, qui l'avait quand même déçu, vers le national et vers finalement la Sardaigne. Donc je crois qu'il y a déjà ces espaces géographiques différents. Ensuite, oui, c'est un intellectuel, c'est très longtemps un journaliste. Et puis un penseur indéniablement avec les cahiers de prison qui sont une œuvre extrêmement importante et dont on est loin encore d'avoir épuisé toute la richesse.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux moments dans la vie et le parcours d'Antonio Gramsci qui est d'un côté et d'abord le journalisme, l'écriture journalistique, puis ensuite l'écriture de ses cahiers en prison. Car en fait, il y a deux types d'écriture bien différents. Est-ce que si on divise sa vie entre ces deux pans-là, est-ce qu'on a raison ou est-ce que c'est trop réducteur ?
À la fois, on a raison et on pourrait affiner. C'est-à-dire que il y a d'abord, c'est vrai qu'il y a une ligne directrice qui est l'écriture d'articles. Et les cahiers de prison, c'est un autre genre d'écriture, obligé, ne serait-ce que par la prison. J'ai écrit sur des cahiers, hein, ce que ça veut dire, écrire sur un cahier, c'est pour contrôler en fait, chaque page est numérotée. Donc c'est une manière pour les gardiens de contrôler qu'il n'y ait pas des feuilles qui circulent. Et je crois qu'au sein de sa période de journaliste, il y a encore là des étapes, parce qu'il est assez peu connu, puis il devient quand même le rédacteur en chef de l'Avanti, qui est le grand journal socialiste. Et il est, oui, je crois que cette dimension chez lui du journalisme est très importante. Et ensuite, l'écriture des cahiers de prison, c'est autre chose, parce que c'est aussi la volonté, comme il le dit, alors il emploie volontairement un terme allemand, Für ewig, pour l'éternité, il écrit. C'est une manière de contourner la censure, c'est-à-dire je vais parler de choses qui ne sont pas d'actualité politique, mais en réalité, il parle aussi d'actualité politique, mais dans une autre optique, beaucoup plus réflexive. Je ne veux pas dire par là que les journalistes ne réfléchissent pas, mais les journalistes doivent répondre à l'actualité. Là où lui, il est en prison, il va essayer de réfléchir sur l'histoire italienne, entre autres, sur l'art, sur le roman feuilleton, etc., sur toute une série de choses.
Et pas seulement sur la politique.
Indirectement sur la politique. Tout est politique, puisque il emploie, entre autres, ce qu'il appelle l'écriture ésopique, en référence à Ésope et puis à Pouchkine. C'était une manière d'écrire sur des choses politiques sans directement que ce soit politique. Alors, c'est pas une écriture codée, hein. C'est pas.
Oui, voilà. Est-ce que c'est une manière de dire que tout est politique pour Antonio Gramsci? Et là, ce serait peut-être la spécificité de son œuvre, de sa pensée politique. Ou est-ce que c'était une manière de contourner la censure, une sorte d'écriture pénitentiaire où finalement on parle de manière détournée de politique à travers l'art, à travers la culture ou d'autres pans de l'existence?
Moi, je crois qu'on peut répondre oui, pour tout est politique pour lui. Mais alors, il y a de la réflexion sur du long terme, en particulier ce qui fait l'actualité de Gramsci, hein, on pourra peut-être y revenir. Et puis, il y a aussi une manière, à travers, par exemple, je donne un exemple dans l'ouvrage de l'analyse d'un chant, je crois que c'est le chant 10 de Dante, où c'est une manière aussi directe d'envoyer un message politique à ses compagnons qui ne sont pas en prison. Pour leur dire, voyez, il y a tel et tel personnage, le point de vue de ce personnage, donc ça semble être de la critique littéraire, et en réalité, ça veut dire, moi, j'ai besoin de comprendre la situation du présent. Donc c'est aussi une écriture, comment dirais-je, pour qui sait lire. Et il savait lire à l'époque, parce que il comprenait bien à quoi faisait référence ce Gramsci. C'est une manière de dire, je ne suis pas mort politiquement parce que je suis emprisonné. Donc je dirais, il y a presque deux niveaux qu'on ne peut pas opposer. Il y a un niveau de réflexion politique, et puis il y a un niveau aussi où l'écriture a une fonction directement politique pour saisir le présent.
Alors je ne l'ai pas dit, mais Antonio Gramsci a été arrêté en 1926. Il va mourir en 1937. Durant son emprisonnement, il va écrire 33 cahiers de prison. Avant cela, il avait été donc journaliste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Jean-Yves Frétinier, comment il en est venu au communisme et comment expliquez-vous qu'il a été emprisonné aussi longtemps ?
Alors, comment il est venu au communisme ? C'est un parcours, je crois qu'il y a trois étapes importantes. D'abord, c'est cet élargissement. Je disais la Sardaigne, l'Italie. Et les premiers grands penseurs qui l'influencent, c'est Benedetto Croce, grand penseur libéral conservateur, son disciple Giovanni Gentile, qui deviendra ministre de Mussolini, qui est un personnage, qui est le prince de la jeunesse, hein, qui séduit énormément la jeunesse, hein, il faut le dire, la jeunesse dans les années 1910. Et puis des gens peut-être un peu moins connus, comme Gaetano Salvemini ou Luigi Einaudi, qui deviendra président de la République. Donc c'est l'idée, ce sont les grands penseurs, on va dire, libéraux, et pour certains, qui abandonneront le libéralisme comme Gentile. C'est cette première dilatation de sa pensée qui lui fait découvrir, entre autres, je dirais, quelque chose qui prend le contre-pied de ce socialisme très positiviste qui le déçoit. Ça, c'est la première étape. Alors, il lit Marx, mais assez peu, finalement. Il va le lire après, mais il ne vient pas au communisme par Marx. Il en vient beaucoup plus, d'abord par ses penseurs libéraux qui écrivent sur Marx, et ensuite par la rencontre avec la pensée de Lénine. Et il y a un fameux article, La révolution contre le capital, alors contre le livre
de Marx.
C'est-à-dire qu'au fond, la spontanéité, la révolution, c'est comme ça qu'on atteindra le communisme. Il y a eu la révolution, c'est pas en attendant que le capitaliste, si vous me passez la formule un peu imagée, se prenne les pieds dans le tapis par ses propres contradictions. Donc, c'est cette espèce de spontanéité qui le séduit. D'ailleurs, on en a pour preuve que ses adversaires le qualifient de bergsonien. Alors, le mot, évidemment, renvoie pas précisément à la pensée de Bergson, mais cette espèce de spontanéité de l'esprit, là où, au contraire, ils sont les garants d'une orthodoxie, d'une lecture marxiste du capitalisme qui, voilà, c'est une contradiction que cette révolution se produise en Russie, qui est un pays attardé. La révolution doit se produire en Allemagne, doit se produire en France, en Angleterre, dans les pays qui sont déjà avancés dans le stade capitaliste. Et puis, je dirais qu'ensuite, il y a la rencontre avec l'international communiste qui renforce ce courant.
Comment il a été séduit et pourquoi il a été séduit par le communisme et déçu par ce socialisme un peu positiviste que vous décrivez ?
Alors, ce socialisme positiviste, il le déçoit. D'abord parce qu'il y a des veines racistes dans ce... Alors, un peu anti-méridionaliste. Anti-méridional. C'est-à-dire où, finalement, ces socialistes italiens, ils sont essentiellement dans le nord de la péninsule et ils sont plus dans une logique de dire faisons alliance avec la bourgeoisie progressiste pour permettre à notre pays de progresser que avec les paysans méridionaux qui sont attardés dans le cycle de civilisation et même pour certains avec des grilles de lecture, on dirait, pour employer le mot de Taguieff, racialiste. Peut-être pas raciste, mais racialiste. Donc ça, évidemment, comme Sardes, c'est quelque chose qu'il ne peut pas admettre. D'autre part, il trouve que c'est une pensée faible, cette pensée positiviste. Et cette pensée positiviste, elle était vraiment fortement critiquée par la très grande revue intellectuelle italienne, qui est la Critica, dirigée par Benedetto Croce. Donc, il est déçu par cette pensée et il affirme, je dirais, son socialisme et ensuite son communisme contre cette lecture.
À la lecture des écrits politiques de Gramsci et de ses cahiers de prison, on est frappé par le fait qu'il pense la politique sans la réduire à l'État ou au gouvernement. Vous l'avez dit, Jean-Yves Frétinier, tout est politique pour Antonio Gramsci. On est aussi étonné du fait que la culture ne soit pas réductible à un savoir encyclopédique réservé à une élite. On est aussi étonné qu'il pense la révolution sans la réduire à la révolution française, qui est un petit peu le modèle qui permet à chaque fois de penser les mécanismes de la révolution. En fait, Gramsci développe une pensée politique, alors vous l'avez dit, à travers des textes qui ne traite pas que directement de politique, qui soit quelque chose de total, mais en même temps d'historique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas figer les choses. Il n'essentialise rien. La politique n'est pas seulement l'État, n'est pas seulement le citoyen. Tout individu est politique. Tout individu est ancré dans l'histoire. Est-ce que c'est un des traits majeurs de la pensée de Gramsci?
Oui, indéniablement. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il va m'être difficile de répondre à tout. Je vais peut-être tirer un fil, par exemple celui de la Révolution française. Il évolue d'ailleurs par rapport à des choses. Sa pensée elle-même n'est pas figée. Il est finalement assez hostile au début à la Révolution française, qu'il estime être une révolution
bourgeoise.
Et en même temps, il est séduit. Pourquoi? Parce que c'est une révolution active. Il reprend un vieux concept de Vincenzo Cuoco, qui avait assisté à la révolution napolitaine au début du 19e siècle, de révolution passive. C'est quoi une révolution passive? C'est un terme souvent qu'on emploie aussi pour Gramsci. C'est une révolution à laquelle le peuple ne participe pas parce que ça ne lui parle pas. Et ça, c'est une des grandes lectures qu'il a de la société civile. Vous l'avez dit, il décale son regard des mécanismes de l'État vers les mécanismes de la société civile. Et entre autres, un des traits qu'il constate dans la société civile italienne, c'est finalement ce manque de... Il en parle quelquefois dans un cahier de prison comme une société semi-féodale. C'est-à-dire, il y a des révolutions, Il y a des révoltes, mais il n'y a finalement pas cette conscience, ce qu'il appelle de classe, hein, de la part de la paysannerie, en particulier de la paysannerie méridionale, d'où ce sentiment d'une révolution passive. Mais par rapport à la Révolution française, après la lecture d'Albert Mathiès, il va modifier un peu son point de vue, précisément pour mieux apprécier cette révolution qu'il avait un petit peu condamnée au début comme une révolution un peu de bons sentiments, une révolution bourgeoise. Donc c'est toujours une pensée qu'il faut saisir en mouvement. Vous avez raison, elle n'est jamais figée. Mais elle répond toujours à des enjeux, les fameux concepts d'hégémonie qu'il utilise.
Etc. Alors qu'est-ce que c'est l'hégémonie, justement ?
Alors l'hégémonie, si j'en avais une définition, c'est...
Parce que l'hégémonie, là aussi, Gramsci est surprenant. L'hégémonie, ça n'est pas la domination d'un groupe sur un autre, enfin tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ça n'est pas un groupe qui a le monopole sur un autre. C'est quelque chose de beaucoup plus élargi qu'il décrit.
L'hégémonie, au fond, c'est une notion qui s'appliquerait essentiellement à la société civile, distinguée de l'État. Déjà, je pense qu'on peut partir de là. Qu'est-ce qu'il fait comme constat lorsqu'il est en prison ? Il dit, le fascisme, ce n'est pas, comme le dit la Troisième Internationale, dans sa phase classe contre classe depuis 1928, ce n'est pas la réaction de la grande bourgeoisie. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est entre autres l'affirmation d'une classe moyenne, en Italie, et c'est donc une adaptation du capitalisme à l'Italie. Et c'est très intéressant parce qu'il fait des comparaisons avec ce qui se passe aux États-Unis, etc. Il dit pas du tout que les États-Unis sont fascistes, mais il dit, voilà, il y a le capitalisme, connaît une crise et s'adapte. Donc le combat sera un combat de longue haleine. Ce combat de longue haleine suppose l'hégémonie, c'est-à-dire au moins de gagner d'abord dans le domaine des idées. Il ne suffira pas de s'emparer du pouvoir par un coup d'État. Il ne faut pas prendre un nouveau palais d'hiver. C'est un combat qui prendra du temps. D'où la notion de guerre de position. C'est-à-dire que ce ne sera pas une guerre de mouvement, ce sera une guerre de position.
Vous avez égrené là tout un ensemble de concepts clés chez Gramsci. Guerre de position, hégémonie culturelle, société civile. Ça veut dire que tout est lié en un bloc chez Gramsci.
Voilà, le combat, c'est un combat de longue haleine. Et donc, dans les sociétés capitalistes, c'est pour ça qu'il y a une véritable actualité de Gramsci, pour ceux qui veulent changer le système, pour ceux qui ne veulent pas changer, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est évidemment, il y a des sociétés civiles très articulées. D'ailleurs, il emploie souvent un mot gélatineuse. C'est-à-dire que justement, on ne peut pas les saisir comme ça. Elles sont complexes. C'est le grand intellectuel qui tient tout un ensemble de choses avec des relais, le prêtre dans les sociétés méridionales, la petite bourgeoisie. Tout ça est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, renverser par un coup de baguette magique ou attendre qu'il y ait des contradictions, etc. Donc, il faut mener un combat de longue haleine. Et ça veut dire concrètement dans la situation dans laquelle il est, ce n'est pas le slogan de la Troisième Internationale. Alors, classe contre classe, c'est-à-dire les communistes contre tous, les socialistes étant des socio-traîtres, etc. Mais c'est un combat qui suppose un front uni face au fascisme. Parce que le fascisme, pour le renverser, étant donné que ce fascisme, il est aussi une phase d'adaptation du capitalisme, ça suppose un combat que seuls les communistes ne pourront pas mener, qui suppose une alliance. D'où la notion aussi, c'est chez lui importante, de ce qu'on appelle de constituante, mais ou de bloc, ou de front uni, qui sera d'ailleurs en partie la stratégie qu'il verra dans les dernières années de sa vie, avec les stratégies des fronts populaires. Sauf que là, il est, je crois, trop malade pour finalement être un penseur actif, parce qu'à partir, il est très malade, hein, comme homme, c'est aussi cette dimension. Donc, finalement, à la fin de sa vie, il voit un peu ça actualisé par la Troisième Internationale, mais je répète, il n'est pas suffisamment là, il est trop malade pour pouvoir être un acteur principal de cette stratégie.
Ce qui résonne avec ce que vous venez de dire, Jean-Yves Frétinier, c'est ce texte de Gramsci où il parle de culture. Il dit « Créer une nouvelle culture ne signifie pas seulement faire individuellement des découvertes originales, cela signifie aussi et surtout diffuser critiquement des vérités déjà découvertes, les socialiser pour ainsi dire et faire par conséquent qu'elles deviennent des bases d'action vitale, élément de coordination et d'ordre intellectuel et moral. Qu'une masse d'hommes soit amenée à penser d'une manière cohérente et unitaire la réalité présente est un fait philosophique bien plus important et original que la découverte faite par un génie philosophique d'une nouvelle vérité qui reste le patrimoine de petits groupes intellectuels. »
Là, oui, on trouve une autre notion, c'est celle d'intellectuel organique, qui a été aussi très employé. Et c'est-à-dire que, oui, la grande figure, le grand génie, c'est pas forcément ça qui compte, c'est la capacité de créer des militants, ce qu'il va appeler les intellectuels organiques, qui sont des militants qui ont une conscience critique. Donc ça veut dire aussi une liberté de pensée, une liberté d'action. D'où d'ailleurs, je pense, après c'est discuté, ceux qui disent Gramsci libéral, pour moi c'est pas ma clé de lecture, mais en revanche, il est clairement, dans des lettres que j'ai voulu donner en italien et faire traduire pour que chacun se fasse son jugement, il est conscient du côté, ce qu'il appelle bureaucratique, qui s'abat à partir du milieu des années 20 sur l'Union soviétique et à partir de là sur l'international communiste et sur tous les partis communistes qui sont finalement inféodés au Parti communiste de Russie. C'est-à-dire, il y a la bureaucratie, précisément, ne crée plus d'intellectuels organiques. Elle crée des gens qui obéissent à une ligne, mais sans avoir d'esprit, je dirais, critique, en mesure justement de façonner cette nouvelle culture sans laquelle il n'y aura pas de renversement d'hégémonie. Et s'il n'y a pas de renversement d'hégémonie, il n'y aura pas de triomphe de changement de société.
Comment Gramsci concevait-il son œuvre ? Est-ce qu'il la voyait comme une sorte de boîte à outils, justement pour que les militants puissent se mobiliser ? Est-ce qu'il la voyait comme une véritable théorie politique, après à chacun d'en faire la lecture qu'il souhaitait ? Ou est-ce qu'il y voyait une philosophie de l'action un peu globale, en disant « je vais redéfinir la politique et voilà à quoi devrait ressembler la politique », à savoir une société civile où chaque homme a son mot à dire, où la culture se diffuse massivement, et où chacun est libre de ses mouvements et en même temps peut donner un sens au collectif.
Alors je pense qu'il faut distinguer la période où il est en prison et celle où, d'avant. Avant, il est un journaliste très très exigeant. Parce que sa grande idée, c'est de dire il faut qu'on fasse un journal ou une revue qui soit en mesure de concurrencer les grandes revues de la bourgeoisie, dont la Critica dont j'ai parlé et d'autres. Et là, il a une exigence extrême.
Il crée l'Ordine Nuovo.
Alors, l'Ordine Nuovo, c'est un journal et un mouvement. Alors, c'est encore autre chose, là, très lié à un contexte. C'est l'idée. On peut d'ailleurs en parler. Une des idées clés de ceux qui travaillent sur Gramsci aujourd'hui, et surtout de nos collègues italianistes, on leur doit beaucoup pour ça, c'est l'idée de traduction. Pour en dire un mot, si vous voulez, d'abord, c'est intéressant de voir que les premiers cahiers, c'est des cahiers de traduction. Alors certes, on se dit, il se fait la main, mais il y a autre chose. Une des grandes idées, moi, je crois, de Gramsci, c'est voilà, et il a fait des études d'ailleurs aussi de linguistique, on dirait aujourd'hui, on disait glottologie à l'époque. Et donc, il est très sensible à ça, il est très sensible à la langue, à la qualité de la langue. Mais je crois que la traduction, c'est qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut traduire la révolution bolchevique en Italie. Mais traduire, c'est-à-dire être attentif aux conditions de départ et aux conditions d'arrivée. Quand on traduit, vous savez, quand on demande à quelqu'un de traduire, souvent, on demande que la personne maîtrise la langue d'arrivée, plus que la langue de départ. Enfin, c'est mieux de maîtriser aussi celle de départ, mais la langue d'arrivée. Comment traduire dans le contexte italien la révolution bolchevique ? Et là, vous voyez que tous les concepts dont on a parlé jouent. Parce que là, même s'il peut y avoir quelques similitudes entre la société russe d'avant la révolution et la société italienne, poids des paysans, etc., c'est quand même deux sociétés différentes. Donc cette notion de traduire est absolument capitale. Traduire politiquement. Et ça suppose une conscience critique. Il ne faut pas faire, d'où son attaque contre Boukharine, le fameux catéchisme révolutionnaire. On n'a pas à appliquer des choses, à obéir, bon petit soldat. Si l'international communiste sait obéir aveuglément aux ordres de Moscou, ça sera, on peut employer un mot italien, ça sera une forme de fiasco. Donc ce souci de traduire permanent. Et comme journaliste, il a cette exigence. Il a des mots très durs lorsque, justement, on sert quelque chose de facile, une langue facile, qui pourrait séduire les ouvriers. Alors ça, non, pas du tout. Il dit, c'est scandaleux. Agnelli, le grand patron de la Fiat, va se moquer de nous si on fait un article comme ça, truffé de fautes, qui finalement flatte le peuple dans le sens du poil. Non, non, il y a un niveau d'exigence. Et dans ces cahiers, il y a ce même travail. Travailler pour l'éternité, Furevich, ça veut dire aussi quelque chose qui tienne la route, qui soit solide.
Mais traduire politiquement, ça veut bien dire trouver la manière en acte, une traduction en acte de concept politique. Est-ce qu'il a pensé sa théorie ? Est-ce qu'il a pensé ses textes comme des outils ou peut-être des recettes, pour employer peut-être un terme qui n'est pas très joli, pour agir ?
Oui, indéniablement, pour agir.
Par exemple, si moi je lis Antonio Gramsci, j'aurai de quoi faire la révolution ?
Ça, je vous l'assure, je ne sais pas, mais ce sont indéniablement, s'il a eu tant de popularité, s'il est étudié dans le monde entier, je crois que c'est parce qu'il est adapté à des sociétés actuelles. Je crois qu'il a deux choses. Il a la chance, si je puis dire, c'est un peu ironique ce que je dis, d'aller en prison, donc d'une certaine manière de ne pas accompagner la bolchevisation. À mon avis, il ne l'aurait pas, vu ses lettres qu'il fait, les dernières lettres qu'il fait.
Et donc d'échapper aux dérives.
Voilà. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait, mais parce que, je répète, ces lettres d'octobre 26 sont importantes. Elles critiquent une certaine bureaucratisation, une certaine violence du parti communiste russe, enfin d'Union soviétique. Et d'autre part, ça c'est là une des premières raisons, donc c'est d'une certaine manière quelqu'un qui on ne peut pas reprocher des travers politiques, puisque finalement il est prisonnier, au moment où il y a cette rigidification du communisme sous le bâton de Staline. Et puis d'autre part, ces concepts, parce que précisément ils sont centrés sur l'Italie, qui est un pays fasciste, à une époque où Mussolini est au maximum de son consensus, dans les années 30. Faut bien comprendre ça, Mussolini, dans les années 30, jusqu'à 37-38, est au maximum de son consensus. Il y a très très peu de contestations. Bien précisément, il met des outils pour penser sur le moyen terme, des moyens d'action, pour rebondir sur ce que vous dites, pour changer les sociétés. Donc, est-ce que si vous lisiez Gramsci, il y a...
Je dis faire la révolution, mais ça peut être trouver des moyens de résister, diffuser une idée collective.
Moi, je pense que oui. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est un peu une icône, un peu, qu'il est tant cité par... voilà. Mais après, il y a le danger qu'il devienne une boîte à outils, que tout le monde un peu puisse quelque chose et réduise à dire il faut d'abord gagner la bataille des idées. Mais ce n'est pas les mêmes idées selon le camp. Mais c'est quand même intéressant cette idée que toute une partie des penseurs politiques, à partir des années essentiellement 80, de l'extrême droite, il est lu par Le Graisse, il est lu par une partie de l'extrême droite, disent c'est important, qu'est-ce que nous apprend Gramsci, qu'on doit d'abord gagner dans le plan des idées avant de gagner dans les urnes. Je crois que ça paraît évident, mais c'est vraiment quelqu'un comme Gramsci qui l'a souligné. Donc, oui, il y a cette fécondité, il y a cette portée. Après, est-ce qu'il peut permettre une... Ça, voilà, il faut des intellectuels organiques pour la porter. Mais indéniablement, je crois qu'il donne quand même des. J'aimerais pas le mot des instruments, mais une manière de penser, une forma mentis qui est adaptée à ces sociétés gélatineuses, à ces sociétés qui sont très développées, dans lesquelles les sociétés civiles sont très articulées et qu'on peut pas bousculer comme ça par un.
Et qui caractérise notre société.
À mon avis, oui.
Merci beaucoup Jean-Yves Frétinier. Je rappelle que l'on peut lire donc votre biographie d'Antonio Gramsci, c'est Antonio Gramsci, Vivre, c'est résister. C'est paru aux éditions Armand Collin. Et puis aussi votre histoire de la Sicile, des origines à nos jours, paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup.
Merci.
À la mattina. Appena alzate, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina. Appena alzate, laggiù in risaia ci gli insetti e le zanzare oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 fra gli insetti
présenté par Gramsci aux ouvriers de la Fiat.
Je dis à ces ouvriers, vous travaillez pour créer une nouvelle société. Une nouvelle société qui sera faite par des ouvriers, qui sera votre société.
Alors, je vous demande,
pourquoi vous voulez changer les institutions, mais vous ne voulez pas changer de coutume. Pourquoi vous n'employez pas la salopette? Pourquoi ne vous mariez pas avec la salopette? Pourquoi vous n'allez pas danser dans la salopette? Pourquoi vous rougissez de porter la salopette? Le dimanche, vous vous endimanchez comme les bourgeois.
C'est l'été, les gens ont besoin de repos, quel qu'il soit, et ils ont besoin de voir leur famille. Cette semaine, il y en a qui ont un peu lâché parce que ça pose des problèmes familiaux, ça pose des tas de problèmes. On a des problèmes de structuration à l'intérieur du mouvement du Gilet jaune, mais on reste là, en éveil, pour être prêt à rebondir et à renaître, même on n'est pas mort, mais à se réveiller une nouvelle fois en septembre.
Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Mera.
Culture. Avoir raison avec Antonio Gramsci, Géraldine Mosna-Savoie.
Bonjour Christophe Miliski.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous nous rejoignez pour cette seconde partie consacrée à Antonio Gramsci et donc maintenant à son usage, à l'usage de son œuvre. Vous êtes professeur en études italiennes, littérature contemporaine à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes aussi co-directeur du centre de recherche italienne de cette université, le CRIX. Vous êtes aussi traducteur et écrivain. Vous avez organisé toute une journée d'études en décembre dernier à Nanterre, généalogie gramscienne, usage et mésusage de la pensée d'Antonio Gramsci. Des ouvriers de l'entreprise Fiat qu'il a présenté au journaliste et écrivain Giuseppe Presolini, dont on a entendu la voix dans l'archive de 1971 au Gilet jaune, peut-on dire que la présence d'Antonio Gramsci, penseur des concepts, on l'a dit, de révolution passive, de société civile, d'hégémonie culturelle, plane aujourd'hui sur les mouvements populaires?
Je ne sais pas si elle plane sur les mouvements populaires. Disons que c'est ce que moi je vois comme un sous-texte des mouvements populaires, ou en tout cas comme une pensée qui peut fournir des outils conceptuels pour lire, pour comprendre ce qui se passe. Effectivement, les Gilets jaunes sont un bon exemple, à mon avis. On peut considérer ce mouvement depuis une perspective gramscienne, avec des outils forgés par Gramsci, ou qu'on peut forger à partir de Gramsci. Parce que la pensée de Gramsci est une pensée extrêmement complexe, extrêmement mobile. Les concepts que vous avez nommés sont des concepts qu'on pourrait dire plastiques. Ils sont jamais très figés dans des définitions. On a l'impression, sur les quelques dizaines d'années où il a écrit, une vingtaine d'années, un peu plus, qu'ils évoluent, qu'ils sont pas dans des sens parfaitement stables et arrêtés.
Ce qu'il voulait d'ailleurs, puisqu'il défendait une théorie qui ne soit pas figée, essentialiste,
absolument,
mais en mouvement. Et en même temps, on peut quand même se demander, utiliser de cette manière-là, ces concepts-là, les manipuler, les rendre autant malléables, est-ce que c'est pas aussi un peu les tordre et un peu les trahir? Et trahir aussi l'idée de départ de Gramsci et peut-être sa théorie originale?
Je crois pas, parce que je pense qu'une des idées extrêmement fortes de Gramsci, c'est l'idée d'historicisation. C'est d'inscrire, y compris ses propres pensées, ses propres concepts, dans l'histoire. Et de considérer que une chose peut être vraie à un temps donné et être utile dans le sens de l'émancipation, par exemple, des classes prolétaires, des subalternes, mais plus tard, se retourner en son contraire et devenir une idée qu'il faut abandonner parce que il faut repenser à nouveau frais le temps présent. Donc je ne crois pas du tout que ce soit trahir Gramsci de rendre ces concepts dans la dynamique, de leur donner leur historicité et de les faire vivre en fonction de leur temps. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que Gramsci, vous y faisiez allusion avec Jean-Yves Frétinier juste avant, a eu tellement de succès en dehors d'Italie, alors même que, comme le disait Jean-Yves Frétinier, ces concepts, et il a tout à fait raison, sont nés dans un terreau parfaitement italien, et pourtant, étrangement, les concepts gramsciens ont été repris par Edward Said, par Stuart Hall, par les fondateurs des Sebastian Studies en Inde, par les Cultural Studies, des gens qui n'ont ni de près ni de loin un rapport avec l'Italie et qui pourtant trouvent dans les concepts, par exemple, de subalterne, d'hégémonie, trouvent des concepts vivants qu'ils adaptent à leur réalité à eux, et notamment dans le rapport que Gramsci n'a pas questionné directement entre colonisateur et colonisé. Il l'a pas questionné directement, mais tout ce qu'il a fait depuis son point de vue de Sarde, c'est-à-dire d'une colonie, si j'ose dire, c'était comme ça politiquement, de l'Italie, tout son point de vue de Sardes sur le pouvoir étatique italien est transposable chez d'autres colonisés, Frantz Fanon, Édouard Saïd, j'ai dit quelques noms.
Alors vous avez cité des penseurs, mais on peut aussi parler des hommes politiques qui utilisent la pensée de Gramsci. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs usages de Gramsci. Il y a d'un côté, on pourrait dire, l'usage académique, universitaire, qui permet d'avoir une grille de lecture des événements contemporains. Puis il y a aussi un usage politique, un petit peu acrobatique. Par exemple, Jean-Yves Frétinier l'a suggéré tout à l'heure sans donner son nom, mais Nicolas Sarkozy, en 2007, disait « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci, le pouvoir se gagne par les idées ». Mitterrand aussi l'a cité dans les années 70. Mélenchon convoque Gramsci, inspiré par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, convoque Gramsci pour parler de guerre de position, de guerre de mouvement, mais aussi d'hégémonie culturelle. Il dit par exemple « L'hégémonie culturelle se gagnera par la production d'un imaginaire collectif s'incarnant par des mots et des personnages dans leur manière d'être ». Pourquoi Gramsci est-il cité autant, et pas seulement pour avoir une lecture du réel, mais aussi pour mobiliser et pour toucher les électeurs et les citoyens?
Je pense parce qu'il a effectivement le sens de la formule que vous venez de citer, par exemple, pour moi est très parlante. Gramsci distingue entre diriger et dominer. Diriger, c'est effectivement conquérir l'hégémonie culturelle, la direction des esprits, pourrait-on dire, pour simplifier. Et dominer, c'est contrôler l'appareil répressif. Et il dit à plusieurs reprises que la classe émergente, celle qu'il défend, la classe ouvrière, la classe paysanne, les simples, comme il dit aussi, doivent d'abord, ou en tout cas parallèlement, mais probablement d'abord, conquérir la direction, l'hégémonie culturelle, parce que l'hégémonie ou la domination répressive ne suffit pas à conserver le pouvoir. Ou alors c'est la dictature. Il faut les deux. Et donc s'il est souvent cité, c'est parce qu'il met le doigt sur des concepts qu'un homme politique ou qu'un conseiller d'homme politique ou qu'un homme qui écrit les discours d'un homme politique, parce que je suis pas sûr que tous les personnages politiques que vous avez cités aient lu Gramsci.
Nicolas Sarkozy dit qu'il était conseillé par Patrick Buisson à ce moment-là.
Peut-être que Patrick Buisson, en revanche, l'a lu. Oui, c'est bien possible. C'est un homme de culture. Un homme cultivé, en tout cas, il trouve chez Gramsci des concepts et des analyses qui font évidemment écho au présent. C'est certain. Tout ce qui a trait à la nécessité pour une classe qui veut dominer, qui veut, au sens strict, avoir le pouvoir, d'avoir aussi les consciences, le consensus des masses qu'elles gouvernent, c'est une évidence. Enfin, un homme politique sait qu'il est bien préférable que les gens, surtout en démocratie où les gens votent, que les gens qu'il gouverne soient d'accord avec lui, qu'ils puissent contrôler leur opinion, leurs évidences, leur sens commun, comme dit Gramsci. L'hégémonie culturelle, c'est ça, c'est forger le sens commun, c'est-à-dire les évidences que nous acceptons comme allant de soi et que nous ne questionnons jamais et qui font que nous nous comportons d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Et ce que Gramsci veut faire, son projet, vous demandiez tout à l'heure si on trouve des recettes chez lui. On ne trouve pas de recettes, on trouve un programme de travail. Un programme de travail à s'appliquer d'abord à soi-même et à propager autour de soi si possible. Un programme de travail qui consiste effectivement à exercer la pensée critique et à se cultiver le plus possible, y compris pour les ouvriers et les prolétaires et les paysans, à se cultiver en connaissant la culture de leurs exploiteurs ou de leurs dominants.
Il y a ce texte, vous avez cité Christophe Mileski. Ce nom de sens commun, cette notion de sens commun, voici ce qu'en dit Gramsci. Il dit « La philosophie du sens commun est la philosophie des non-philosophes, c'est-à-dire la conception du monde absorbée d'une manière acritique par les différents milieux sociaux et culturels dans lesquels se développe l'individualité morale de l'homme moyen. Le sens commun n'est pas une conception unique, identique dans le temps et dans l'espace, c'est le folklore de la philosophie. Et comme le folklore, il présente des formes innombrables, son trait fondamental et le plus caractéristique est d'être une conception fragmentaire, incohérente, inconséquente, conforme à la situation sociale et culturelle de la multitude dont il est la philosophie. » Il y a une véritable promotion du sens commun chez Gramsci, c'est-à-dire qu'on peut se demander si la diffusion des idées, la massification des idées ne passe pas par l'éducation, mais plutôt par une valorisation du sens commun et peut-être du sens le plus simple que tout le monde ait à sa portée.
Alors ça, c'est le point de départ. Le sens commun, chez Gramsci, c'est un concept, je trouve, parfaitement ambivalent. D'un côté, il lui permet de dire que chez quiconque, il y a tout à fait le germe de toute intelligence. Il dit...
Tout homme est philosophe.
Voilà, il le dit clairement. Il dit « tout homme est philosophe, tout homme est un intellectuel. Même ceux qui exercent les professions les plus viles et les plus dégradées sont des intellectuels, même s'ils n'ont pas la fonction sociale d'intellectuel. Ils sont des intellectuels ou des philosophes au sens où ils sont la réalisation vivante d'une conception du monde, parfois à leur insu. Mais ils sont un modèle pour leur famille, pour leur entourage. Ils peuvent donc renforcer des conceptions du monde ou les modifier. » D'ailleurs, et on a tous en tête, moi je suis issu de l'immigration, j'ai en tête des gens de ma famille qui étaient des ouvriers arrivés en France sans travail, analphabètes, qui ont ensuite appris à lire, mais qui ne sont certainement pas nés dans la culture, et qui ont été pour moi des modèles par leur agir, pas par leur discours. Par leur manière d'être.
Donc quand Gramsci dit, et ce que reprend Nicolas Sarkozy, la victoire, le pouvoir se prend par la victoire des idées, les idées finalement c'est pas des idées hautes, élaborées, créées, découvertes, des vérités découvertes comme je disais le texte tout à l'heure, mais ce sont plutôt une manière de cultiver ce que chacun a en soi et de cultiver l'action.
Certainement pas des idées hautes au sens où on l'entend traditionnellement, parce qu'un des points cruciaux de la pensée de Gramsci c'est d'en finir avec la coupure entre philosophie et praxis. Et d'ailleurs, il définit le matérialisme historique, le marxisme, en termes de philosophie de la praxis. D'une part pour contourner la censure, mais pas seulement. Je pense qu'il veut redéfinir le marxisme en termes d'insister sur la nécessité d'opposer, d'en finir avec la fracture entre le monde intellectuel et le monde de la pratique. Il dit que les intellectuels, les philosophes qui sont coupés des besoins élémentaires du peuple sont des pédants et des hypocrites. Ils savent sans comprendre et sans sentir. Savoir, pour lui, c'est comprendre et sentir. Et inversement, s'ils ne font que sentir, ce sont des exaltés et ils ne sont pas intéressants non plus.
Alors c'est une véritable théorie même anthropologique alors qu'il est là-bas.
Mais absolument, je pense que Gramsci est un penseur du tout en fait. C'est un penseur effectivement politique du début à la fin. Tout est politique, vous le disiez au début, mais le politique mène à tout et tout mène au politique. On peut pas, l'homme est un animal historique, un animal politique. Politique veut dire pour lui d'ailleurs d'abord un animal social, un animal qui vit avec ses autres congénères, qui doit vivre dans la socialité, c'est un terme qui est important chez lui, la socialita.
Christophe Mineschi, vous avez révélé comment Gramsci fait un véritable trait d'union, ou on va dire même s'oppose à la division qu'il y aurait entre d'un côté le peuple et les élites. C'est avec cette grille de lecture que vous analysez par exemple le mouvement des Gilets jaunes et qu'il a pu lire aussi le mouvement ouvrier de son époque.
Alors, je peux pas dire comment il a lu le mouvement ouvrier de son époque. Il y a participé, hein. Il est allé dans les usines pendant les deux années rouges, les Biennio Rosso, entre 19 et 21. Il était dans les usines juste avant l'avènement du fascisme. Et il était, disent les ouvriers qui l'ont connu, il était là pour apprendre. Il a une conception d'ailleurs de l'enseignement qui est à double mouvement. L'enseignant apprend des enseignés autant que les enseignés apprennent de l'enseignant. Et c'est pas simplement de la rhétorique chez lui. Tous les témoignages concordent dans ce sens-là. Quant aux Gilets jaunes, oui, moi j'y vois...
C'est une véritable manière de voir comment Gramsci a une actualité et comment il peut donner les outils, peut-être pas pour faire la révolution, mais en tout cas pour lire des événements actuels.
Je faisais un moment où les Gilets jaunes ont commencé un séminaire à Nanterre sur Gramsci, et j'ai considéré que c'était quasiment des travaux pratiques des questions qu'on évoquait avec les étudiants.
Alors pourquoi ?
Les Gilets jaunes, c'est une crise de l'hégémonie culturelle. C'est un moment où il y a rupture entre le système économique et le discours qu'il tient pour nous convaincre qu'il a raison d'être ce qu'il est. Il y a rupture entre ce système économique et sa rhétorique et la façon dont le peuple, ou une partie du peuple en tout cas, mais une partie conséquente du peuple, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues et beaucoup de gens qui soutenaient le monde dans les rues, le peuple se représente ses propres intérêts, son sens commun, les évidences qu'il tient pour acquis. Tout d'un coup, il y a rupture et on se dit, mais ce système économique ne nous rend aucunement justice. Et je parle d'hégémonie culturelle parce que le déclic des Gilets jaunes, à mon sens, plus que l'augmentation annoncée de la taxe sur les carburants...
Ou la limitation de vitesse...
C'était surtout la justification qui était donnée. La justification, l'argument culturel qui était avancé. On augmente la taxe dans l'intérêt du climat et contre la pollution. Et là, je pense que pour l'énorme majorité des gens qui ont entendu ça, l'imposture était trop évidente, et donc il y a eu rupture en termes d'hégémonie culturelle. Tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Et regardez les efforts qui ont été déployés, et notamment par la classe ou la caste, dirait Gramsci, des intellectuels, au début, pour dire les Gilets jaunes sont des fascistes, des racistes. Il y en avait certainement parmi les gens qui manifestaient, statistiquement il y en avait forcément, mais globalement c'est pas un mouvement qui est né du tout en réponse aux migrants, contre les migrants ou contre l'accueil des migrants. C'est un mouvement qui est né d'une protestation populaire des subalternes, qui demandent à être entendus et qui revendiquent le pouvoir. Je pense que c'est gramscianement tout à fait ce qui s'est passé.
Alors comment comprendre que les intellectuels ne jouent plus ce rôle culturel de soutien du sens commun et qu'ils se soient vraiment éloignés? Et comment faire, est-ce que Gramsci peut-être nous le dit, comment faire pour faire de l'intellectuel quelqu'un qui porte et qui diffuse les idées?
Bah oui, Jean-Yves Frétinier disait que c'est pas un processus qui peut se résoudre d'un coup de baguette magique. Ce sont des temps longs. Moi, je ne sais pas comment faire. J'ai pas de recette.
Gramsci, est-ce qu'il pensait le rôle des intellectuels qui séparaient, embourgeoisaient?
Absolument. Pour lui, en tout cas en Italie, pratiquement aucune exception d'intellectuels qui n'ait pas été à distance du peuple. C'est ce qui reproche beaucoup aux intellectuels italiens, c'est d'être totalement en dehors des préoccupations, des besoins élémentaires. C'est ce qu'il dit du peuple. Comment faire pour que ça change? Gramsci a un programme de travail très précis, en fait, et le journalisme, c'est vrai que le présenter comme un philosophe de la praxis, c'est une bonne chose, mais on peut dire que c'est un journaliste au sens noble du terme. Pour lui, le journalisme doit être un journalisme de formation, pas d'information, donner des informations. Un journaliste qui forme. Il était journaliste.
Il n'y a pas que le rôle des intellectuels, il y a aussi le rôle des médias.
Le rôle des médias, mais pour lui, il n'y a pas de différence, en fait. Un journaliste est un intellectuel. Il a une fonction intellectuelle prééminente dans la société. Et les articles qu'il a écrits, alors des centaines et des centaines d'articles, dans une lettre de prison, il dit, je crois, à sa belle-sœur, qu'il y aurait de quoi en faire 10 ou 15 volumes de 400 pages chacun. On ne sait pas combien il y en a, tellement il y en a. Il y en a dans des tas de revues socialistes de l'époque, puis communiste, et celle qu'il a fondée lui-même, dont l'Ordine est nuovo. Et il a énormément écrit, et ses articles sont des articles difficiles, alors qu'il s'adresse, parfois en le tutoyant, au lecteur ouvrier. Il explique au lecteur ouvrier, par exemple, le concept d'héritage. Il dit « t'auras rien à laisser à tes enfants, par contre tu peux leur laisser un héritage. C'est l'héritage de la solidarité avec les tiens, de la lutte politique ». Ça, c'est un héritage que tu peux leur transmettre. Et il y a un texte extrêmement ardu à lire, qui est vraiment difficile conceptuellement. Il ne sacrifie rien. Il avait d'ailleurs des polémiques avec ses camarades du Parti Socialiste sur ces questions, qui disaient mais au lieu de leur faire des articles trop difficiles pour eux, il faut leur apprendre à militer, à aller dans les rues, à manifester. Et il disait mais non, déjà avant même d'avoir théorisé l'hégémonie, il disait qu'il fallait travailler à l'élévation culturelle des masses pour lesquelles on se bat. Et dans l'idée de faire émerger de ces masses ce qu'il appelle intellectuel organique. Non pas de le projeter d'en haut, mais de le faire émerger de la masse populaire elle-même. Non pas que nécessairement un bon intellectuel des masses ouvrières doive avoir été lui-même un ouvrier, je ne crois pas qu'il pense ça jamais. Lui-même n'est pas issu d'un milieu ouvrier, d'ailleurs il est issu d'un milieu de, disons, petite bourgeoisie. Son père avait fait des études jusqu'à l'université, à l'époque c'était considérable. Parce que il est nécessaire que la classe des subalternes, la classe ouvrière, la classe prolétaire, la classe paysanne produisent ses propres intellectuels, comme la classe bourgeoise les produit sans problème.
Et en même temps, Gramsci, on peut peut-être dire, Christophe Mileski, est ambivalent à l'égard du sens commun, parce que dire que c'est le folklore de la philosophie, dire que c'est fragmentaire et éparse, c'est une manière de le valoriser, déjà de lui rendre hommage, mais c'est aussi une manière de dire qu'il ne peut pas forcément donner un élan structuré. Il donne l'élan, mais peut-être pas une structure. Et d'ailleurs, il y a un double versant dans le sens commun. Il y a d'un côté le fait qu'il soit résistant, critique, qu'il soit novateur, en perpétuelle transformation, et en même temps, il a quand même un versant conservateur, attaché à la tradition. C'est le principe aussi de quelque chose qui est populaire, c'est quelque chose qui est d'usage, qui est traditionnel. Est-ce que cette ambivalence du sens commun, on ne peut pas aussi l'appliquer aux Gilets jaunes en se disant, ou aux Gilets jaunes, ou à n'importe quel mouvement populaire, en même temps, les idées doivent être diffusées, en même temps, il doit y avoir des intellectuels qui émergent de n'importe où, et puis il faut quand même avoir en tête cette ambiguïté dans le sens commun.
Oui, non, vous avez raison. je le disais, que le sens commun est une notion ambivalente chez lui. C'est ce qui, malgré tout, peut faire résistance à des idées nouvelles qui seraient contradictoires avec les intérêts du peuple, mais c'est aussi effectivement une force d'inertie conservatrice. C'est ce qui, le sens commun, c'est ce qui est passé des vérités, parfois des vérités antérieures, dans l'idée générale, dans l'idée qu'on se fait du monde. La Terre était plate, autrefois, ça faisait partie du sens commun, et puis ensuite la Terre a été ronde. Il a fallu un certain temps avant que le sens commun enregistre cette modification. Mais aujourd'hui, il est acquis que la Terre est ronde. Si demain, quelqu'un vient nous dire qu'elle est cubique et le démontre, il faudra un certain temps avant que ça rentre dans l'idée générale. Donc, mais sur le folklore, c'est pareil. C'est une notion qu'il a étudiée. Il a beaucoup réfléchi à la notion du folklore. Pas en sociologue, en anthropologue, en linguiste. Et c'est également une notion sur laquelle il a des propos assez ambivalents. D'un côté, ça lui paraît être la forme la plus dégradée de ce que peut être la culture populaire. Et d'un autre côté, on y trouve des vérités, on y trouve des étincelles de pensée et de génie qui ne distinguent en rien le folklore au fond de la production intellectuelle la plus avancée et la plus remarquable. Il est ambivalent, mais je l'ai dit au début, sa pensée, elle est en mouvement. Et il a jamais produit une œuvre au sens traditionnel du terme. Il
n'y
a aucun livre de Gramsci.
Oui, ce qui permet quand même de l'utiliser à tort et à travers.
Jusqu'à un certain point, oui, mais ça arrive aussi à des gens qui ont produit des œuvres totalement closes et bien verrouillées, comme Pasolini, qui est souvent cité en Italie, y compris par la Lega, par des gens de l'extrême droite.
On peut se réapproprier des idoles communistes.
À peu près tout à n'importe qui. Hors contexte, si on prend trois mots d'un penseur, on peut faire dire à Marx qu'il est pour le Front National.
Je pense à cette phrase qui a été très citée au lendemain de l'élection de Donald Trump en novembre 2016, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. C'est une phrase d'Antonio Gramsci, c'est une phrase qui caractérise en fait la crise.
Oui, c'est ça. Oui. Moi, je trouve que c'est une très belle phrase, mais on peut lui faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Et je dirais qu'elle s'applique pratiquement à tout moment de l'histoire.
On est toujours peut s'appliquer à aujourd'hui, par exemple.
Entre un vieux monde et un nouveau monde. On peut dire le nouveau monde, ça sera le monde où on aura banni le plastique de nos existences, le monde où on aura enfin compris que les gens pour lesquels on vote, une fois au pouvoir, s'empressent de faire autre chose que ce qu'ils avaient dit et de servir des intérêts économiques qui ne sont pas du tout ceux des électeurs. Qu'entre ce nouveau monde qui arrive, on peut aussi dire le nouveau monde, c'est la fin de la vie sur Terre, etc. Entre ces deux mondes, l'ancien et le nouveau, dans la transition, le clair-obscur surgissent les mondes. C'est une très belle phrase, mais elle est extrêmement polyvalente. On peut vraiment la promener à peu près n'importe où.
Alors vous la lisez comment ?
Et lui faire dire n'importe quoi. Ce n'est pas une de mes phrases préférées de Gramsci.
Quelle est votre phrase préférée ?
Ma phrase préférée, j'aime beaucoup le slogan qu'il avait mis en exergue du premier numéro de L'Ordine Nuovo, où il dit de mémoire « Istruitevi ». Perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Instruisez-vous, car nous aurons besoin de toute notre intelligence. Agitez-vous, car nous aurons besoin de tout notre enthousiasme. Organisez-vous, car nous aurons besoin de toute notre force.
Et c'est très actuel.
Ça, c'est ma phrase préférée, et elle est parfaitement actuelle.
Il y a aussi un autre texte que moi j'ai repéré, peut-être vous l'aimez aussi, je suis sûre que vous le connaissez en tout cas. C'est ce texte où il pose la question « qu'est-ce que l'homme ?» Et il dit « c'est la question première, la question principale de la philosophie. Comment peut-on y répondre ? La définition, on peut la trouver dans l'homme lui-même, c'est-à-dire dans chaque individu. Mais est-elle juste ? Dans chaque individu, on peut trouver ce qu'est chaque individu. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'est chaque homme particulier. » Qu'est-ce que l'homme ? Par là, nous voulons dire qu'est-ce que l'homme peut devenir ? C'est-à-dire, l'homme peut-il dominer son propre destin ? Peut-il se faire, se créer une vie ? Disons donc que l'homme est un processus et précisément, c'est le processus de ses actes. Si nous y pensons, la même question, qu'est-ce que l'homme, n'est pas une question abstraite et objective. Elle est née de ce que nous avons réfléchi sur nous-mêmes et sur les autres et de ce que nous voulons savoir en fonction de nos réflexions et de ce que nous avons vu, ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir, si réellement et à l'intérieur de quelles limites nous sommes les ouvriers de nous-mêmes, de notre vie, de notre destin.
Voilà, là, on voit très bien que c'est un philosophe de la praxis, pas du tout un idéaliste, pas du tout un positiviste non plus. Il est donc en rupture avec une partie du socialisme.
Et avec Marx aussi, où il est contre son déterminisme social, économique et politique.
En tout cas, l'homme est un devenir, c'est ça que j'entends moi dans ce passage très, très intéressant et très beau. Par exemple, sur la notion de nature humaine, il a écrit aussi des choses. Il dit la nature humaine, en gros, ça n'existe pas. La nature humaine, c'est l'ensemble des rapports sociaux historiquement déterminés. C'est comme ça qu'il définit la nature humaine. En opposition avec l'Église, qui a défini une nature humaine puisque Dieu a créé le monde tel quel, avec les positivistes qui considèrent qu'il y a une forme de nature humaine pour des raisons qui sont différentes, mais qui au fond, d'après lui, recopie celle de la religion, et en rupture avec les idéalistes. Il n'y a pas de nature humaine, il y a une construction permanente de ce qu'est l'humain dans l'histoire.
Et qu'est-ce que ça veut dire se faire, se créer un destin, être ouvrier de son destin ?
Mais je crois qu'il veut dire qu'il faut travailler. Je vous disais, il n'y a pas de recette, il y a un programme de travail. Ça veut dire, moi, c'est pour ça que je fréquente Gramsci. C'est parce qu'il me renvoie sans cesse à tout ce que je ne sais pas, à tout ce que je n'ai pas encore compris, à tout le travail qui me reste à faire, à tout ce que j'ai pas lu. Et il était dans sa prison. Il a passé plus de 10 ans en prison. Il n'a pas pu tout de suite avoir accès à des livres, mais progressivement, au bout d'un an ou deux, il a pu avoir jusqu'à 4 livres en même temps. Et il dévorait littéralement des livres de toutes sortes. Il pouvait pas non plus avoir n'importe quel livre, évidemment, pour des raisons idéologiques, on lui a pas laissé l'accès à tous les livres. Il lisait y compris la presse fasciste, dans laquelle il trouvait des éléments de réflexion, parce que une des idées fortes de Gramsci aussi, c'est de ne pas rejeter ou renier la pensée de l'adversaire. C'est de la connaître et d'y trouver éventuellement les éléments qui peuvent être utiles à la pensée qu'on est soi-même en train de construire. Il est jamais dans la dichotomie, il est dans la dialectique et il est jamais dans le dogmatisme. C'est un penseur antidogmatique par excellence. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'est pas marxiste. Enfin, vous savez que Marx lui-même a dit « je ne suis pas marxiste ». Donc, il n'est pas marxiste au sens où il n'est certainement pas dogmatique. Et très vite, d'ailleurs, et après il va en prison, mais il comprend ce qui est en train de se passer en Union soviétique. Et il a une ligne que Togliatti, qui est son ami et qui va être le premier secrétaire du Parti communiste en exil, puis à la libération du Parti communiste italien, Togliatti, il lui dit « non, non, on suit la ligne, pour simplifier ».
Vous avez dirigé, organisé une journée d'études sur les usages et mésusages de Gramsci. Qu'est-ce que serait un mésusage de Gramsci, un mauvais usage de sa pensée ?
Vous avez donné quelques exemples tout à l'heure, à mon avis, qui étaient assez probants.
Quand on extrait, par exemple, une phrase hors de son contexte, par exemple, dire le pouvoir se gagne par les idées pour être dit par n'importe qui.
Je ne pense pas que Gramsci dit comme ça. Je ne pense pas que Gramsci soit le père fondateur de cette vérité. Il l'a dit autrement et de façon plus complexe et articulée. Le mésusage, c'est d'utiliser Gramsci parce que ça fait joli, parce que les gens connaissent pas trop, parce que c'est un Italien.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une mode Gramsci? Parce qu'en fait, on voit que son image plane, mais finalement, est-ce que...
J'aimerais bien, mais je suis pas sûr. Alors, il y a le problème aussi les cahiers ont été traduits. Le travail de Jean-Yves Frétigny, à mon avis, doit être lu et mérite qu'on le lise parce qu'il repromeut Gramsci en France, mais il me semble qu'il y a du chemin à faire. Est-ce qu'il y a une mode Gramsci en Italie? Il n'est pas tellement fréquenté, à vrai dire, aujourd'hui. Les gens le connaissent comme ça, comme un gars qui a compté à un moment donné, et je ne crois pas qu'il soit beaucoup lu. Il faut dire que son œuvre, c'est 3 volumes de 700 pages chacun, certains écrits tout petits, parce que l'édition critique de Gerratan a comme parti pris d'écrire en caractère minuscule les notes qui seront ensuite reprises et développées dans un cahier suivant. Donc c'est un énorme volume de pages et c'est relativement ardu parce qu'il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de livre. C'est une succession absolument cohérente, mais qui n'a pas été organisée par l'intéressé, de cahiers qui se suivent. Et c'est compliqué parce qu'il est sur plusieurs fronts de réflexion en même temps et il n'a jamais pris le temps d'organiser lui-même son travail. Même, il a refusé en fait qu'on le fasse pour lui. Avec les textes antérieurs des différentes revues, on lui avait proposé depuis l'extérieur de le mettre en forme, de publier peut-être quelques recueils de ces textes. Et il a dit non, ça n'était pas des textes...
Refus du dogmatisme.
Il a refusé qu'on les mette en forme.
On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.
C'était un plaisir. Merci beaucoup.
Alors, je signale que vous avez écrit l'article, on en parlait, Gilets jaunes ou la révolte des subalternes. C'est dans la revue Historia Magistra, c'est le numéro 28. Et puis, on peut aussi lire votre traduction du texte d'Italo Calvino, Monsieur Palomar, aux éditions Gallimard. Et puis aussi, chers auditeurs, chères auditrices, lisez les œuvres d'Antonio Gramsci. Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas de livre en tant que tel, mais on peut lire ses cahiers de prison, par exemple.
Les lettres de prison.
Et les lettres de prison. Sont disponibles aux éditions Gallimard. Merci. Grand merci à Anaïs Isbert, à Thomas Beau à la réalisation, à Anthony Thomasson et Adèle Caglar à la prise de son. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture à la page de l'émission Avoir raison avec Antonio Gramsci.